Aujourd'hui, Bezrat Hashem, nous allons continuer notre thème général de l'année qui concerne en fait la Neshama spéciale du peuple d'Israël. Et là, on va essayer de comprendre le rôle de la notion de Emouna. En hébreu, le mot Emouna tient sa source, vient de la source de l'Amen, du verbe entraîner. Imoun, un entraînement. Amana, un décret, une loi. L'Amen, certifié. Oman, artiste. Amen, vérité. Neum, discours. Mana, en arabien, vêtement. Et je peux continuer encore longtemps. C'est juste pour vous donner quelques références concernant ce nom, ce terme, que nous avons malheureusement l'habitude de traduire comme étant la foi. Alors que vous voyez qu'il s'agit ici de quelque chose d'actif, et non pas de passif, quelque chose qui nous oblige en fait à réaliser, quand je dis réaliser, je fais référence au mot réel, c'est-à-dire émettre. Sous-entendu, quand je réalise quelque chose, c'est que je certifie la chose en quoi j'ai émouna. D'ailleurs, le mot Amen au féminin devient Amen et le Nun tombe, donc ça devient Emet. Donc, quand je dis Amen, je veux dire vérité. La valeur numérique du mot Amen, Aleph 1, Mem 40, Nun 50, 91. 91, c'est la somme des deux noms d'Hachem, le tétragramme, Yud, Ke, Vav, Ke, 26, et sa réalisation, Adon, Aleph, Dalet, Nun, Yud, 65. 26 plus 65, 91. Quand je dis Amen, je fais en sorte que le nom d'Hachem, qui représente le côté transcendant, Yudke Vavke, qui est au-delà de la nature, au-delà des lois de la nature, au-delà du temps, au-delà de l'espace, au-delà du mouvement, s'habille dans un monde de mouvement, d'espace et de temps. Ça donne. Il y a des mesures, din. Donc le tétragramme Yudke Vavke, qui s'habille dans Aleph Dalet Nun Yud, forme une combinaison qui relie les deux noms et dont la valeur numérique est Amen. 91. Donc, le mot Amen, c'est faire en sorte que le tétragramme se dévoile dans ce niveau du monde immanent. Donc, que le transcendant descende et se dévoile dans l'immanent. Un grand secret que nous devons voir à chaque fois que nous voyons le nom d'Hachem, Yud, Ke, Vav, Ke, nous devons voir, visualiser à l'intérieur de ce nom un autre nom. D'ailleurs, que nous disons, nous voyons Yud, Ke, Vav, Ke, mais quand nous disons Aleph, Dalet, Nun, Yud. On ne dit jamais le nom Yeho. On dit en regardant Yud, Ke, Vav, Ke, Adni. Pourquoi? Justement parce que nous devons faire la combinaison entre ces deux noms et nous entraîner, leit amen, à devenir des ma'aminim, c'est-à-dire des certificateurs. Avec des mots les plus simples possibles, nous devons apporter dans ce monde ce qui dépasse ce monde. Akadosh Baruch Hu n'est pas seulement dans ce monde, il dépasse aussi ce monde, il entoure ce monde, il est bien au-delà de ce monde, mais nous, à notre niveau, nous devons faire en sorte qu'il se réalise dans ce monde. Donc nous sommes en réalité les ma'aminim. C'est un verbe. C'est un nom, le nom de notre métier. Nous sommes des ma'aminim, des certificateurs. Voilà notre métier en tant que peuple. C'est-à-dire ceux qui certifient ce qui est au-delà. De la même manière que quand vous avez un certificat, vous devez aller chez un avocat ou chez un notaire pour qu'il certifie que c'est conforme à la source. Tout à fait. Donc toutes les actions que nous faisons, que nous appelons des mitzvot, ce sont des mitzvot divines. C'est pour ça que nous disons d'ailleurs, Asher Kideshanu be mitzvotav, velo be mitzvotenu. Nous n'avons pas des mitzvot, nous. Toutes les mitzvot sont les siennes. Asher Kideshanu be mitzvotav, shelo. Lo be mitzvotai, sheli. Moi je n'ai pas de mitzvot. Toutes les mitzvot sont des mitzvot divines. Donc elles ne sont pas en réalité dans la logique humaine. Même si certaines d'entre eux peuvent ressembler à quelque chose qui est dans la logique, en tout état de cause, ce sont des mitzvot qui sont des mitzvot divines, donc qui appartiennent à quelque chose de très haut, et surtout pas à l'individu en tant qu'individu.
Et ça nous permet de changer les lois de la nature.
Tout à fait. Ça nous permet d'apporter dans les lois de la nature des éléments hors nature, et donc de changer en fait la nature pour la faire revenir à sa véritable nature, qui aujourd'hui n'est pas le cas. La nature que vous voyez aujourd'hui n'est pas la nature originelle. La nature originelle, c'est celle vers laquelle nous allons. Nous devons ramener à cette nature d'aujourd'hui sa véritable nature. La nature d'aujourd'hui est malade, donc elle est un petit peu dévoyée, elle est sortie de la voie de sa véritable nature. Donc nous ne fonctionnons pas nous non plus en tant qu'hommes et femmes selon la véritable nature de ce monde. Si c'était le cas, on aurait dû être aujourd'hui des prophètes immortels. Le fait que nous soyons mesurés, finis, bloqués, et que nous n'ayons pas la vision globale des choses, nous sommes étriqués dans notre vision, ça montre que nous sommes malades, que nous avons été déportés de notre véritable source. Et donc, tout le but de ce monde, c'est de revenir, en fait, à cette sensibilité du départ. On appelle ça revenir au jardin d'Éden, duquel nous avons été renvoyés. Nous n'avons pas été renvoyés d'un lieu seulement, nous avons été renvoyés d'un système qui s'appelle Adinut, la sensibilité. Et toute notre vie, c'est un retour vers ce Eden, vers cette Adinut, vers cette sensibilité. Donc plus on y arrive, ça demande beaucoup de mouvement, ça demande d'abord de comprendre la notion du tout, donc du peuple et pas seulement de l'individu, et que ce peuple ne peut pas se réaliser pleinement que dans un lieu précis sur la terre, qui est la terre d'Israël. Donc tous ces mouvements prennent du temps. Certains d'entre nous n'ont pas encore compris ce genre de message. Ils ont l'impression qu'en revenant seulement à des valeurs de la Torah, mais sans avoir un rapport avec le peuple et avec sa terre, peuvent arriver à ce retour. Ce n'est pas le cas. Ils peuvent faire un certain mouvement individuel, mais ce n'est pas encore le véritable sens de notre travail. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu nous demande de nous révéler en tant que peuple. Et ce peuple-là, c'est en réalité celui qui est capable, parce qu'il a été doté de cette neshama qui certifie Dieu sur terre. Donc nous sommes comme des notaires d'Akadosh Baruch Hu. Quand quelqu'un veut venir certifier quelque chose, eh bien on doit, nous, lui dire, on va vérifier est-ce que c'est conforme à ce que nous avons reçu. Nous et personne d'autre. Nous avons reçu le seul degré de référence avec lequel on peut mesurer tout ce que les autres vont venir nous montrer. Donc à chaque fois que quelque chose, que quelqu'un vient montrer quelque chose, nous devons prendre comme référence la seule chose que nous ayons, qui soit objective, c'est-à-dire qui soit venue de l'infini. Donc la Torah. Si ce n'est pas conforme à la Torah, nous rejetons. Parce que ça veut dire que c'est une invention humaine, donc par nature subjective, et non pas objective. Donc c'est très important de comprendre ce secret. C'est pour ça que la Emouna, c'est un métier, c'est pas seulement une foi, c'est un travail que nous devons fournir pour arriver à certifier toute chose dans ce monde conforme à l'origine divine. Car Dieu a créé le monde et sa seule référence dans la création, c'est la Torah. Istakel be'oraita ubara alma. Dieu a regardé la Torah, il a créé le monde. Donc toute chose dans ce monde a comme structure intérieure la Torah, puisque c'était le plan avec lequel tout a été créé. Donc si je veux savoir si je suis dans la bonne voie, je dois me référer à ce que la Torah dit. Si c'est en dehors du système de la Torah, ce n'est pas dans le plan de la création. Donc je suis, chas v'shalom, en train d'inventer quelque chose qui n'est pas. Notre métier en tant qu'homme et femme d'Israël, en tant que nation, c'est donc d'être ma'aminim, bnei ma'aminim. Je vais traduire ça comme vous avez l'habitude, des croyants, mais en réalité vous comprenez que ce n'est pas des croyants, parce que croire en quelque chose, c'est avoir un doute. Nous, c'est l'inverse, c'est aimer, c'est la vérité absolue. Il ne s'agit pas de croire, il s'agit de savoir et d'être fidèle à. Donc les ha'amim, c'est pas croire en, c'est savoir, c'est certifier, c'est concrétiser, c'est amener. D'ailleurs, le mot amener vient du mot emuna, c'est-à-dire je fais amener, j'achemine un degré à la véritable et la seule référence qui soit. Alors, pour développer ce sujet, ou commencer en tout cas à le développer, j'ai pris un texte de mon maître, le Rav Zuckerman, qui a écrit un livre qui s'appelle Ha'achdut HaKolelet. C'est ce texte-là, il vient donc de ce livre, Ha'achdut HaKolelet, qui est introuvable aujourd'hui, le Rav Zuckerman. Yoshua Zuckerman, c'est le maître en fait de toutes les écoles aujourd'hui du style Rav Kook, donc Machon Ora, Machon Meir, Meir Kazarav et tout ça. D'accord, c'est lui qui en fait la référence, c'était l'élève du Nazir, qui était l'élève du Rav Kook. Et donc aujourd'hui, donc, c'est vraiment un maître, à peu près 75 ans, à peu près, voisin des 80, et c'est vraiment la référence de toute cette shita, de toute cette tendance. Il enseigne aussi à Har HaMor, à la yeshiva de Har HaMor, d'accord, qui était en fait l'ancienne yeshiva de Merkaz Arav, qui s'est coupée en deux parties. Qu'est-ce que tu as posé comme question? Pourquoi il est introuvable? Tout simplement parce qu'il a été arraché et acheté de partout et il n'y en a plus. Ouais. Et comme il n'a pas ressorti, je veux faire une nouvelle édition de ce livre. Vous allez voir la manière de traiter donc ce sujet de Emouna que le Rav a. Alors, Bichlalut Nomar, nous allons dire d'une manière générale, Sheha Emouna hi Truna Chaim. Que la Emouna n'est pas ce qu'on a cru jusqu'à maintenant, mais une Trunat Chaim, c'est-à-dire une valeur de vie, une notion de vie. Hamakna la Adam, qui va procurer à l'homme, donc Milashon Liknot, c'est comme s'il va acheter, donc qui fait acquérir à l'homme, Mudaout, une certaine connexion, plus qu'une connaissance, c'est-à-dire une connaissance profonde, qui lui est nécessaire pour vivre. Avec mes mots à moi, ce que le Rav est en train de dire ici, c'est que quiconque n'a pas de Emouna ne peut pas vivre. Autrement dit, quelqu'un qui n'a pas de Emouna est considéré comme mort. Donc la Emouna, c'est un élément suffisant et nécessaire pour vivre. C'est avec ça que nous vivons. D'ailleurs, nous avons un texte qui nous le prouve, Tzadik ve'emunato yichye. Tzadik, un tzadik, quelqu'un qui donc fait le lien entre les mondes, c'est ça la notion de tzadik, ne vit que par une seule chose, ve'emunato, parce qu'il a la emuna. Les non-tzadiks. Alors ça s'appelle un rachat. Il peut avoir, chas de shalom, une définition d'un rachat. Et le rachat est considéré comme quand même mort. Le rachat, c'est encore pire. Ça veut dire que s'il sait qu'il fait tout pour étouffer la chose, c'est encore pire que de ne même pas savoir.
Négatif. Et on le dit, laissez-le, parce que même ça, c'est une forme de croyance.
Alors, il a une croyance dans un Dieu qui lui a fait du mal. On va dire comme ça. D'après lui. Je n'ai pas dit que c'était lui le rachat. Je suis en train de dire que quelqu'un qui ne fait pas ce lien, lui, il fait le lien. Donc, je ne peux pas le considérer comme un rachat. Mais quelqu'un qui ne fait pas le lien entre les mondes, qui pour lui n'existe rien, il n'y a aucune force, aucun dieu, aucun mouvement, et ça c'est quelqu'un qui se découpe en fait de la source de la vie, donc automatiquement il est déconnecté comme une feuille déconnectée de l'arbre. Donc il est considéré comme un mort. Non, s'il le sait, il est déjà dans une autre degré. C'est comme si tu me rappelles une histoire d'un Israélien qui a quitté Israël et qui est parti avec toute sa famille habiter en Suède. Ok. Il a inscrit ses petits-enfants dans une école, donc ce qu'il y avait là-bas, sur place. Et un des jours où les enfants reviennent de l'école, la fille dit à son père, aujourd'hui, nous avons appris comment l'homme est venu du singe et qu'il n'a pas été créé, qu'il a toujours été là et tout ça. Et le père, qui était anti-religieux, anti-tout, anti-juif, presque à la limite, il a tout quitté, il voulait plus rien entendre, dit à sa fille, c'est faux. Nous croyons en un seul Dieu en lequel on ne croit pas. C'est-à-dire, nous avons un seul Dieu, mais on n'y croit pas. Ça veut dire que c'est une histoire, hein, c'est juste pour montrer l'image. Ça veut dire, pour nous, il y a un seul Dieu, et c'est dans ce seul Dieu qu'on ne croit pas. Voilà le paradoxe de celui qui est et qui n'est pas. Alors on sait que chacun de nous, Baruch HaShem, dans le peuple juif, on est tous des tzadikim, parce qu'il y a toujours un lien avec cet infini, béni soit-il, même si on ne veut pas se l'avouer. Mais si, Chas v'Shalom, on voulait définir quelqu'un en tant que Racha, Rechaim Kruim Metim. Les Rechaim sont appelés des morts. Justement parce qu'ils ont coupé. D'accord ? Donc, je répète, la vie est issue de la Emouna. Qui possède la Emouna vit. Qui n'a pas de Emouna est en train de mourir.
Est-ce que le fait de croire en Dieu, c'est la Emouna aussi ?
Alors encore une fois, croire en Dieu, ça ne veut rien dire.
Oui, non, mais ça veut dire Dieu, on est monothéiste et on y croit. Parce que là, vous avez
et ça veut dire on y croit.
Et
ça veut dire on y croit. Qu'est-ce que ça veut dire on y croit ?
Parce que c'est vrai qu'il y en a qui disent oui, il y a un Dieu, mais à côté de ça, ils font rien. Et pourtant, ils pensent.
Alors, ok. Alors, savoir son existence, c'est déjà un degré de Emouna. C'est une Emouna qui n'est pas encore développée, mais ce n'est pas du blanc et du noir. C'est ce que je voulais vous faire entendre. C'est-à-dire, c'est pas un meteg on off. Il y a plus ou moins ou plus. C'est-à-dire que dans la Emouna, il y a des petits degrés, ce qu'on appelle des katnei amana, katan, mm-hmm. et dans la Emouna, il y a des grands degrés. Donc il y a des grands ma'aminim et de petits ma'aminim. Mais d'une manière générale, tout le monde est ma'amin, plus ou moins. D'accord? Donc de 1 à 100, il y a toutes les tendances. Benosaf alea, encore une fois, si il n'y a pas cette Emouna, il n'y a pas de vie. Je ne suis pas en train de parler de notions kabbalistiques. Je suis en train de parler de notions réelles. Je veux dire par là que le fait, et là je vous rajoute une couche, le fait que vous soyez vivante prouve que vous êtes ma'aminim. Pourquoi ? Parce que vous êtes en train de certifier le divin qui est en vous. Donc, le fait que tu marches, qui te fait marcher ? C'est le divin qui t'a donné la neshama qui est en toi. Donc, si tu marches maintenant, et que tu es dans une démarche de vie, tu es en train d'activer le Dieu qui est en toi. Donc, dans ce cas-là, tu es déjà ma'amina. C'est pour ça que celui qui n'est pas ma'amine est considéré comme un mort, parce qu'il n'active plus Dieu.
Oui, mais les rejets, ils marchent aussi comme nous.
Bien fait. Alors, à quoi ça ressemble ? Tu as raison. À une feuille que j'ai arrachée de l'arbre. Et quand tu la prends, ou une feuille qui a été découpée, une fleur qui a été découpée, elle sent encore. Mais tu es en train de sentir une fleur morte. Elle est morte, la fleur. Vous êtes d'accord ou pas ?
Ah oui, c'est pas comme si on sentait une fleur qui s'envole.
Dans la nature, la fleur, elle est vivante, parce qu'elle est encore reliée à la terre. Toi, quand tu l'as coupée, cette fleur, elle a encore le parfum. Mais elle est morte. La preuve, c'est que juste il lui prend quelques jours pour s'éteindre complètement, mais elle est déjà morte, elle a déjà été déconnectée. Alors que si j'apporte un beau bouquet à quelqu'un, il va me dire oh, « Quelle merveille !» En réalité, je vais lui dire « C'est un ensemble de fleurs mortes. » Chas v'shalom. C'est ça, en fait, un bouquet. C'est un bouquet de mort, en fait. Vous comprenez ? Je vous ai massacré le système. Mais en réalité, c'est ça. Alors que si je prends un champ plein de coquelicots, toutes les fleurs du champ vivent. Parce qu'elles sont reliées encore à leur source. C'est ça, c'est de ça que je suis en train de parler. D'accord ? Donc vivant, c'est rester connecté à la Havaya, à l'être suprême, qui nous fait vivre à chaque instant. Puisque je vis de sa vie. Si vous n'êtes pas d'accord, dites-le moi. On vit de son être. On est d'accord, Nachon ? Comment on dit être en hébreu ? Lihiyot. Quelle est la racine ? Yutkevake. D'accord ? Ça veut dire lihiyot, être, ani, c'est yud kevavke. D'ailleurs, dans le mot ani, vous rajoutez un dalet, ça fait adon, le nom, adni. Je suis, je serai, ehye, lihiyot, havaya, vehayu, tout ça c'est yud kevavke. Donc c'est Dieu à travers nous. Nous sommes des porteurs du shem yud kevavke. Vous êtes avec moi ? Ok. Deuxième couche. Benosaf alea, au-dessus de ce degré-là, au-delà de ce degré, ou mikocha, et par sa force, de la emouna on parle, hein, yesh la adam sechel, l'homme a aussi une intelligence. Autrement dit, vous comprenez bien que le Rav, et moi j'ai déjà avancé, alors que lui ne l'a pas dit encore clairement, est en train de nous comparer la Emouna à un seul mot. À quoi ? À la ? Non. Bien avant l'intelligence. Qu'est-ce que je dois être d'abord pour être intelligent ? Non. Il y a fait vivant tout simplement. Si je ne suis pas vivant, il n'y a plus rien de tout ça. Donc la Emouna pour le Rav, c'est d'abord la vie. Donc comment vous allez traduire Anima Amin ? Je vis. Incroyable. Je peux dire dès lors qu'une vache a de la Emouna, puisqu'elle est vivante. Qui l'a fait vivre, la vache ? Hachem. Elle est consciente ? Non, elle vit. Donc, moralité, la Emouna n'est même pas notion de conscience pour l'instant. C'est juste le fait de vivre et de véhiculer une vie à travers moi. Donc un oiseau a de la émouna. Un chat a de la émouna. Une vache a de la émouna. Donc, au-dessus de ça, après ça, pas au-dessus au niveau qualité, mais issu de ça, je peux avoir de l'intelligence. Parce que j'existe d'abord. Donc, après cela, on va dire, et par la force de la émouna, donc la vie, yesh la adam sechel, l'homme a une intelligence. Regesh, il a aussi des ressentis, parce qu'il est vivant, n'oubliez pas. Vedimion, il a aussi de l'imagination. C'est-à-dire, il arrive à se faire des images. Imaginez, c'est se faire des images. Pourquoi faire? Les shem hakarat a sauvé voto. Tout ceci pour essayer de comprendre ce qui l'entoure. Donc, l'être est vivant. Et du fait qu'il soit vivant, il peut acquérir et de l'intellect, et des sentiments, et de l'imaginaire, et savoir tout ce qui l'entoure, commence à prendre contact avec le monde environnant. Et là, chez kol echad midal ke hatsaga elu, cependant, chacune de ces formes, de ces chemins, chacun de ces chemins, de cette Hasaga, de cette atteinte, c'est-à-dire de ce niveau que j'ai acquis, shonot bisgulatan. Chacun de ces niveaux est différent. C'est-à-dire tous ces niveaux sont différents les uns des autres. C'est-à-dire que l'intelligence est différente du ressenti. Le ressenti est différent de l'imaginaire. Et ainsi de suite. Ou mineile, c'est pourquoi shonot betots otehen. Il y a aussi des différences dans leur réalisation, dans leur dans ce que je vais voir, c'est-à-dire dans le résultat final. Quelqu'un qui est imaginatif n'a pas la même concrétisation dans sa vie que quelqu'un d'intelligent. Il peut avoir les deux. Mais ce sont des degrés qui apparaissent d'une manière différente dans ce monde. À Sechel, alors le Rav va commencer à expliquer. À Sechel, par exemple, l'intelligence, à quoi ça sert? Eh bien, « Yéafcher la Adam le galot et metzi uto shel olam mufshat. » L'intelligence va lui permettre à l'homme de prendre connaissance d'un monde virtuel. Donnez-moi par exemple une notion virtuelle que vous connaissez.
C'est Internet.
Non, non, avant. Arrêtez, vous êtes trop dans votre... La base. La base. Vous avez quelque chose qui est depuis votre naissance, depuis que vous êtes petite, on vous parle, mais c'est virtuel. Les chiffres. Les chiffres. C'est virtuel, un chiffre. C'est une notion virtuelle. Montre-moi un 1. Montre-moi un 2. Ça veut rien dire pour toi. Toi, tu vas... Bien sûr, c'est des chiffres et des lettres. Bien sûr. D'accord. C'est virtuel, tout ça. Toi, tu vas me dire, ça, c'est 2. Mais quel rapport? Il est où le 2 là-dedans? Si tu vas me dire que 2 plus 2, ça fait 4. 4 quoi? Donc nous sommes habitués à nous projeter dans un monde virtuel, mais ça c'est pas facile. Demande à un bébé, avant de savoir que ça plus ça, ça fait 2, il comprend pas. Donc il faut l'habituer. Qu'est-ce qui le fait comprendre des notions qui sont virtuelles? L'intelligence. Donc nous avons été dotés d'une intelligence qui nous permet de prendre contact avec des choses virtuelles. En face de ça, le umadzot, haregesh, le ressenti, le sentiment, yehave merkaz, regardez bien, il a fait exprès d'écrire le nom d'Hachem, yud ke vavke, mais en hébreu, c'est aussi être, yehave, lehevot. Les havot. C'est-à-dire que le umadzot haregesh yehave merkaz aklita. C'est pas le nom d'Hachem là, hein? Alors que c'est écrit comme ça. C'est-à-dire que le Rav veut nous faire comprendre que, par exemple, quand tu ressens quelque chose, eh bien, c'est en réalité un merkaz klita. Qu'est-ce que c'est un merkaz klita? Un centre de capter, qui t'aide à capter quoi? Les Chamesh et Tachushim. Eh bien, tes cinq sens. Vous connaissez vos cinq sens? Qu'est-ce que c'est? Ok. Maintenant, d'où ça vient tout ça? De l'intelligence ou bien du ressenti, du regesh? Du regesh, pas de l'intelligence. D'accord? Puisque même un animal qui n'est pas intelligent, un degré non intelligent, on va dire, a ses capacités de ressentir les choses. Donc vous voyez qu'il y a quelque chose de différent complètement. Alors que les deux, et l'intelligence et le regesh, viennent de qui? De la Emouna, qui est en réalité la vie. Sachon, un neshama. Ve'adimion, on passe à un troisième degré, l'imaginaire. Quel? Yegasher benhem, qu'est-ce qu'il va faire entre l'intelligence et le ressenti? Il va relier. Donc il va faire un pont qui va relier l'intelligence au ressenti. Hein? C'est l'imaginaire qui fait ça. Je viens de vous dessiner sans que vous le voyez. Qu'est-ce que je viens de vous dessiner ici? Qu'est-ce que c'est que ça? L'ADN. Une ligne de l'ADN, c'est quoi? L'intelligence. C'est vrai. L'autre, c'est Regesh. Et le pont, le lien qui fait entre chacun, c'est le dimion. D'accord? Donc si vous avez en fait un dimion, un sens de l'imaginaire développé, qu'est-ce que vous pouvez devenir? Ben oui. Il y a fait. Parce que tu es en fait en train de faire le pont entre l'intellect et le ressenti. Comment ça s'appelle ça dans le langage de la Torah? Faire teshuva. Parce que la référence de la teshuva dans la Torah, elle est où? Elle est dans un verset. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans le verset concernant la teshuva? Vahashevota el levavecha. Tu devras ramener les choses à ton cœur. D'où est-ce que tu dois les ramener à ton cœur? De ton cerveau. Donc la teshuva, la notion de teshuva, c'est faire le lien entre le cerveau et le cœur. Par quel moyen je fais ce lien? Par le monde imaginaire. Donc plus je suis développé au niveau imaginatif, plus je fais le lien entre les mondes. D'accord? Adimion donc, Yegasher, ça vient du mot Gesher, qui veut dire un pont. Il va faire le pont entre le Sehel et le Regesh. Ve'af, et pas seulement il va faire ce pont, mais en plus, Yegor et Tanoda Bazikaron, il va garder tout ce que la mémoire, tout ce que le souvenir a capté. C'est-à-dire que le monde imaginaire, non seulement il fait le lien entre l'intellect et le ressenti, il va aussi garder tous les souvenirs. C'est-à-dire si nous avons des souvenirs de quelque chose, c'est parce que nous avons un imaginaire développé. D'ailleurs, à chaque fois qu'il y a un souvenir, ça passe par une image que tu es en train de te faire de quelque chose qui s'est passé, ou une odeur, ou un parfum. C'est la même chose. C'est en réalité ta force imaginative qui arrive à te mettre dans le futur, dans le passé. Je te dis, imagine que, et toi, immédiatement, tu voyages. Fermez les yeux maintenant. Imaginez que vous êtes au Kotel. Combien de temps ça vous prend? Une seconde, un pas. Il y a fait, justement. Le souvenir peut être quelque chose qui est encore même pas arrivé. C'est quelque chose de, on n'est pas encore là, mais tu as raison. Mais ça va là-dedans. Quel? C'est comme si c'était faux.
Voilà.
Mais c'est faux, c'est pas ça. On n'est pas en train de parler d'imaginer des choses. D'ailleurs, tu peux pas imaginer quelque chose que tu n'as jamais vu. Si je te dis, par exemple, imagine un ovni. Qu'est-ce que tu vas imaginer? Une casserole que tu connais dans ta cuisine. On va te dire des martiens. Qu'est-ce que tu vas imaginer? Des petits bonhommes. avec une grosse tête, mais c'est des petits bonhommes, parce que tu connais des petits bonhommes dans ce monde. Donc tu vas te faire des films et tu vas prendre, copier, coller. Tu peux pas imaginer quelque chose que tu n'as jamais vu. D'accord ? Donc on vous rêvez en fait. Quel est le monde qui marche le plus ? L'imaginaire. Qu'est-ce que c'est que le rêve ? Il est où le rêve ? Il est nulle part. Où tu es quand tu rêves ? Dans ton lit. Et pourtant, tu es dans le monde entier. Alors qui a rêvé ? C'était où ce rêve-là ? Où est-ce qu'il s'est passé ? Dans la tête. Ça veut dire que tu es en train de toucher un monde qui est parallèle au tien, qui n'arrive pas, il est virtuel, mais avec ton imaginaire, tu arrives à faire des ponts. Ok ? Mais il existe. C'est
juste le cerveau qui crée des...
Il ne crée pas, justement, c'est ça le Inyan. Il est stimulé, mais en réalité, il fait des ponts, il fait des liens entre des degrés que tu as connus, que tu as vus, que tu as ressentis, et ainsi de suite. Regardez comment ça devient maintenant de plus en plus complexe en même pas 5-6 lignes. Ça veut dire qu'en réalité, on a commencé par la vie. D'abord, il faut vivre. Le Rav va considérer que la vie, c'est ta Emouna. Donc, quand tu es Ma'amin, tu es vivant. Une fois que tu es Ma'amin, cette Emouna va te donner de l'intelligence. Elle va te donner des ressentis. Et elle va te donner le pont entre les deux qui s'appelle le monde de l'imagination.
Donne à l'homme, pas aux autres êtres vivants.
Alors, d'accord. Aval. Mais il y a un mais. Voilà le premier mais. Quand on dit aval en hébreu, c'est quelque chose qui casse. Ouais. D'ailleurs, Chas v'Shalom, le deuil, se dit avel. C'est la même racine. D'accord ? Avlout, Chas v'Shalom. Donc, aval. Les filles perout kol otahit partout, sikhit, rikshit, vedimionit. Quand je commence à détailler ces trois degrés, donc l'intelligence, le ressenti et le dimion, ala adam liot muda le etsem metsiut nafsho. L'homme doit sans arrêt être en connaissance de l'existence de son être. Je veux dire par là que je ne dois à aucun moment oublier que je suis. Parce que si j'oublie que je suis, je risque, Chas v'Shalom, de perdre tout. Un exemple. Il y a une personne qui marche sur un trottoir. À côté du trottoir, il y a une route. Plein de voitures. Qui roulent à 50 à l'heure. Assez vite et un mouvement très très vif de circulation. Maintenant, lui, il est sur un trottoir. Jusqu'à maintenant, tout va bien. Un chien arrive. Il aboie. Le type, il a tellement peur du chien qu'il saute sur la route, il se fait écraser par une voiture. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il a oublié qu'il était. C'est-à-dire la peur du chien, donc son monde imaginaire, l'a porté à un degré qui est en dehors du système, ça veut dire, à la limite, il aurait mieux fallu qu'il soit mordu un tout petit peu, plutôt que de mourir. Donc, à cet instant-là, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a quitté son être. Donc, il a arrêté de vivre. Donc, il a perdu sa Emouna à ce moment-là. Incroyable. Donc, il est considéré comme rachat, donc comme mort. Donc qu'est-ce que c'est le rachat maintenant ? C'est pas quelqu'un qui a fait quelque chose de mal apparemment, qui a pas fait Shabbat, qui a pas mangé kasher. Il a tout simplement sorti de la vie à ce moment-là. Donc il s'est déconnecté. C'est terrible. Donc le mot rachat, c'est quoi ? Celui qui n'a pas de Emouna. Donc celui qui a perdu en fait le contact avec l'ensemble. On est d'accord ? Dans la Haggadah de Pessah, comment vous définissez le rachat ? Non. Non. Comment les sages définissent? Les filles, shehotsi et atzmo me'aklal. C'est-à-dire, il est sorti du tout. Il s'est séparé de la vie de l'être en général. Donc, il a fait chas v'shalom mettre en relief un degré, le chien qui me mord. Il y a fait. On approche. Ça veut dire que vous êtes en train de comprendre que quitter votre tout, c'est-à-dire votre être, c'est un manque de émouna. À chaque fois que vous avez un chien qui vient vous mordre, maintenant, ça c'est un exemple. Vous pouvez me donner quelque chose qui ressemble à un chien qui vient de vous mordre? Peu importe, ça peut être n'importe quoi, un coup de téléphone. Il y a fait, mais ça veut dire, pas seulement ça, donner trop de degrés à un seul degré, c'est sortir du tout. Donc tu n'es plus équilibré à ce moment-là. Donc si tu as trop donné d'importance à un degré, tu n'es plus en proportion. Donc si tu n'es plus proportionnel, tu es en train de paniquer. Donc c'est la peur panique. Vous avez déjà des peurs paniques, chacune d'entre vous, vous avez des trucs, vous avez peur de quelque chose? C'est quoi? Par exemple, tu as peur de quoi? Les piqûres. Ok. Alors, les piqûres, les vaccins. Imagine-toi qui est maintenant en train de prendre une prise de sang. Ok. Si c'est à outrance, cette peur-là, l'aiguille devient quoi? Un monstre. D'accord? Et ce monstre, il est 10 milliards plus fort et plus important que ce qu'il est réellement. C'est une petite piqûre de rien du tout. Maintenant, si tu es tellement dans cette panique, tu peux faire quoi au moment où on vient, tu vois la piqûre comme un truc énorme qui vient te rentrer dans la peau? Qu'est-ce que tu peux faire? Perdre ton ensemble, bouger par exemple, tu vas te massacrer les veines. Ça veut dire, elle va te commencer à chercher des trucs de partout, ça va t'exploser la veine, tu vas commencer à bouger, ça va faire des trucs de partout, ça va faire une panique, tu risques de t'évanouir. Qu'est-ce que ça fait là? Tu as tout simplement mis en relief un degré alors que tu l'as pas mis dans la proportion. Si tu l'avais vu à sa véritable grandeur, une toute petite aiguille de rien du tout qui va durer 5 secondes, tu vas sentir un petit « aïe, c'est fini », eh bien ça aurait été beaucoup plus viable. Là, tu as mis en exergue, tu as mis en relief, tu as exagéré un degré parmi tant d'autres. Donc tout le reste est devenu flou. D'accord ? Il est plus glissant. Le reste est dans le flou. Vous avez des appareils photo ? Quand vous faites un zoom, je veux faire un zoom sur la pointe de mon stylo. Vous voyez que ça, d'accord ? Tout le reste de l'image devient flou. C'est la même chose. Quand vous faites un zoom dans votre vie sur un sujet et que vous oubliez le reste autour, ça s'appelle un rachat. C'est ça le rachat. Donc il faut faire très attention. Je suis en train de peindre. J'ai une toile, je suis artiste peintre. Il y a un degré que je veux faire d'une manière parfaite. Mais je passe 10 jours sur ce petit degré. Mais j'ai pas fait attention à comment il s'habille dans l'image globale. Il est beau. L'image, elle est belle. Mais les deux ensemble, c'est une pourriture. C'est un acte de rachat. Pourquoi? Parce que j'ai pas pris en compte ce degré par rapport au tout. J'ai mis ça en relief. J'ai même pas regardé le reste. Une fois, quand je suis revenu à moi, je me suis dit, mais attends, mais qu'est-ce que ça fait là, cette tâche? Aucun rapport. Mais c'est la même chose dans votre vie, dans notre vie. Comprenez ce que je suis en train de vous dire? Et tous les mots M-A-U-X, tout ce qu'on a mal, tout ce qui nous fait mal, c'est à cause de ça. C'est parce qu'on ne sait pas mettre les choses en proportion. On ne sait pas mesurer, donner la véritable mesure à la chose. Donc tu développes des peurs par rapport à une personne, par rapport à une chita, par rapport à une manière d'être, par rapport à un style de vie qui n'est pas le tien. Tu te dis, oh là là, il faut pas que je sois en contact avec lui, ça me fait trop peur. Un chat devient un tigre, alors que c'est un tout petit chat de rien du tout. Maximum, il va faire... Un chien, ça devient un loup. Et toute chose devient comme ça. Et c'est comme ça, Chas v'Shalom, qu'on souffre. D'accord? Alors, c'est pour ça que le Rav, qu'est-ce qu'il dit? Aval, l'ifne à Perout, attention, avant de rentrer dans les détails, c'est-à-dire je suis intelligent, je suis dans le ressenti, je suis dans l'imaginaire, Al ha'adam, il faut que l'homme, l'yot mouda, il faut qu'à chaque instant, il soit en cohérence et en conscience b'metziut nafsho, de son être, de son existence. N'oublie jamais l'être entier. L'etzem ha'koach ha'noten chaim, c'est-à-dire à qui tu fais référence quand tu penses à ce tout-là, à l'infini qui te fait vivre, à cet instant même. Pendant que tu es en train d'écrire maintenant, c'est l'infini qui est en toi qui te permet de bouger tes doigts pour écrire? Oui. Est-ce que tu es conscient de cela? Si tu l'oublies, c'est pas bien, fais attention. Tu risques de tomber dans cette erreur dont j'ai parlé tout à l'heure. Vekor peula la sechel la regesh ve la dinyon. Donc tout ce que j'ai en moi aujourd'hui, maintenant, je suis en train de vous donner un cours. Qu'est-ce qui marche en moi? L'intelligence, ou bien le ressenti, ou bien l'imaginaire? Ou bien les trois? Eh bien les trois. Mais avant de rentrer dans les trois et de les mettre en pièces, je dois savoir qu'avant tout ça, je vis. Je bouge, je suis là. Je suis. Si je suis, je suis. De par qui je suis? De par l'être suprême qui est en moi, que j'appelle Havaya. Donc Akadosh Baruch Hu qui est en moi, on va l'appeler comme ça, si j'oublie en réalité mon être vivant et que je rentre directement dans les détails, intelligent, machin, dans les cases, je perds Chas V'Shalom cet ensemble. Et ça, il faut faire très attention de ne pas perdre la notion de vie qui t'anime à cet instant même. C'est-à-dire au divin qui est en toi. N'oublie jamais ça. C'est pour ça que le Shulchan Aruch, la première page, avant de commencer les halachot, qu'est-ce qu'il dit? Shiviti. Yutke vavke enegdi tamid. J'ai en face de moi ce yutke vavke. Maintenant, vous comprenez qu'il ne s'agit pas du nom d'Hachem, mais de la vie. J'ai en face de moi la notion de vie à chaque instant. Oy va avoy de l'oublier. C'est très 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 fort ce qu'on est en train d'étudier là. Je ne sais pas si vous comprenez. On est en train de toucher des choses énormes de la vie. Al ha'adam liot malechaim. Donc l'homme doit être à chaque instant rempli de vie. Donc il est rempli de vie par qui? Encore une fois, par l'être vivant, par Akadosh Baruch Hu, qui est lui-même la vie. On l'appelle Elohim Chaim. Donc je vis de par son être. Donc si je permets à Akadosh Baruch Hu de me traverser, je suis plus vivant que quelqu'un d'autre. On est d'accord? Donc plus vous voyez quelqu'un de vivant, plus il est. Amin. Même sans rien comprendre. Un enfant de 3 ans, il comprend la notion de Emouna, de Dieu, de quelque chose? Rien du tout. Et pourtant, qu'est-ce qu'il fait toute la journée? Il saute, on dirait un tin, 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 il n'arrête pas. Il est rempli de vie. Ça, c'est un sadique. Je n'ai pas parlé de Torah, je n'ai pas parlé de Halakha, je n'ai parlé de rien du tout pour l'instant. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il est tellement imprégné de vie qu'il veut même pas mourir un peu. Qu'est-ce que c'est mourir un peu? Aller dormir. Parce que quand vous allez dormir, c'est parce que vous êtes fatigué un peu de la vie. Et d'ailleurs, vous faites Kriyat Shema comme si vous alliez mourir. C'est pour ça qu'on fait Kriyat Shema. Dormir, c'est mourir un peu. Quelqu'un qui est vivant au maximum de sa vie ne devrait jamais dormir. Qui ne dort jamais? Akadosh Baruch Hu lui-même. Akadosh Baruch Hu lui-même. Hine lo yanum ve lo ishan, shomer Israël. Akadosh Baruch Hu ne dort pas. Pourquoi il ne dort pas, Akadosh Baruch Hu? Pourquoi la notion de sommeil n'existe pas chez lui? Parce qu'il est complètement vie. Il est la vie. Donc plus je suis vivant, moins je dors. Quelqu'un d'angoissé, quelqu'un de dépressif, qu'est-ce qu'il a envie toute la journée? De dormir. Eh bien c'est exactement ça. Donc il est plus proche de la mort que de la vie. Je fais toujours un jeu de mots en hébreu. On dit Kriyat Shema Alha Mita. Mita, comment vous l'écrivez? Avec un tet, le lit. Mais moi je l'écris aussi avec un ta, la mort. Kriyat Shema à la mita, c'est la même chose. Mais c'est ça en réalité. Pourquoi pour un mort, dès qu'il va mourir, Chas v'Shalom, vous dites le Shema Israël? Jusqu'à 120 ans. J'étais à côté de mon papa, au moment où il a fermé les yeux, et je lui ai dit, tout le Shema Israël. Je lui ai dit, papa, ne t'inquiète pas, tu vas partir, maintenant ta Neshama va voir ce qu'elle doit voir, je t'accompagne avec le Kriyat Shema. Et il a fermé les yeux, j'ai vu un sourire, et je lui ai fait son Kriyat Shema. C'est quoi? C'est une mort. C'est, ça veut dire la Neshama est en train de partir. Mais si t'es vivant, il n'y a pas ça. Quelqu'un qui étudie la Torah dans une intensité de vie énorme, qu'est-ce qu'il faut presque lui rappeler de dire Kriyat Shema?
C'est pourquoi il y a le schéma le matin alors?
Justement, parce qu'on s'est réveillé de la mort. Non, il y a un schéma aussi le matin. On vient de se réveiller de la mort. D'ailleurs, quand Rabbi Shimon Bar Yochai, vous rappelez cette histoire? Dans la Haggadah de Pessah, encore une fois, il est assis avec quelques amis. Et les élèves viennent, ils leur disent, Rabota, il dit Azman Kriyat Shema. Vous dites jamais le Kriyat Shema? Quoi, ils savent pas? C'est des rabbanim, c'est des grands d'Israël, ils savent pas que le Shema, il est arrivé? Parce qu'en réalité, ils ont pas dormi. Ayu erim kolayla, ilave oskim batora. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire, on n'a même pas besoin de leur rappeler, ni Kriyat Shema, ni Wallo, rien du tout, ils sont vivants. Le fait de vivre, c'est comme si tu disais Kriyat Shema à chaque instant. C'est-à-dire sans devoir le dire. Et d'ailleurs, par quoi on commence dans le Kriyat Shema? Shema Israël, Hashem Eloheinu Hashem Echad. C'est-à-dire, si je comprends le 1, alors Ve'afta et Hashem Elohecha Bechol Levavcha, il te remplit. Lema'an Yirbu Yemeichem, pour que vous viviez longtemps, Ve'ime Bnechem, ainsi que vos enfants, à la Adama. Sur la terre d'Israël, que Dieu vous a promis. Et donc ça, qu'est-ce que c'est chiyuni en hébreu? C'est très important. Ça vient de quelle racine? Chai. C'est ce qui me fait vivre. C'est comme si tu disais, c'est un sujet de vie ou de mort. Mais là, on dit de vie. C'est un sujet de vie. Zechiuni uto. Donc, la vie de l'homme. Zo, cette vie, cet instinct de vie. Tofia beyeter dargot achaim. Elle va continuer, elle va se développer sur les autres parties de la vie. Quelles sont les autres parties de la vie qu'on a énumérées tout à l'heure? L'intellect, le ressenti et l'imaginaire. Vous êtes avec moi? Ok. Donc quelqu'un qui défend sa vie à chaque instant, il est très vivant. Si vous venez attaquer un chien, qu'est-ce qu'il fait? Il se défend, non? Il te sort les dents, il te dit, en fait, dans ce ne touche pas ma vie. Je suis vivant, je sais pas ce que tu me veux, moi j'ai besoin de manger dans 5 minutes, j'ai encore faim. Je veux vivre, c'est tout. Je comprends rien, j'ai jamais été à l'école, rien du tout, mais je vis. C'est très important de vivre, de comprendre cette notion de vie. Ou basé tafkida emuna. Et ça, tout ce qu'on vient de dire maintenant, c'est le rôle de la emuna que nous avons donc traduit déjà par la vie. Par le fait de vivre, par le fait de s'entraîner à vivre. Est-ce que vous vous entraînez à vivre? Qu'est-ce que je fais quand je m'entraîne, par exemple? S'entraîner au sport. Quand je m'entraîne, qu'est-ce que je fais? Je fais la chose, mais qu'est-ce que ça me fait? Pourquoi je m'entraîne? Mais pourquoi? Comment ça marche? Je fais activer dans mon corps tout. Donc, je fais en sorte que le sang circule beaucoup plus vite. Mes battements de cœur sont plus accélérés. Donc, après l'entraînement, je suis plus vivant qu'avant l'entraînement, alors que j'aurais dû être crevé. Regardez les gens qui rentrent à l'entraînement, on dirait qu'ils rentrent à Tisha B'Av, ils sortent de l'entraînement, ils sont tout frais. Ils peuvent manger un steak de je sais pas quoi, parce que l'entraînement leur a creusé le truc, ils ont un instinct de vie vachement fort, il y a l'adrénaline qui bouge, tout est boosté, il y a du sérotonine qui roule dans ton corps. C'est énorme, c'est extraordinaire un entraînement, et tu sors heureux. D'ailleurs, à chaque fois aujourd'hui, tous les médecins du monde bougeaient plus. C'est devenu un slogan. Il faut bouger. Il faut faire un entraînement, il faut faire le maximum de ce que tu peux. Une bonne yeshiva, c'est une yeshiva dans laquelle il y a un cours de sport. D'entraînement, peu importe lequel. C'est très important. Et si, chas v'shalom, j'entraîne que mon cerveau, en fait, le corps devient quoi? Comme du bassé, comme de la pâte, chas v'shalom. Il devient faible, il n'a plus de force, il n'a plus de souffle, il n'a plus rien. Alors comment vous voulez qu'il y ait un talmid racham si son corps ne fonctionne pas selon sa tête? Et alors, sa tête va accélérer le mouvement, son corps va devenir de plus en plus faible, tu vas avoir face à un lavabo, maigrichon, qui n'a aucune force de rien du tout. Mais c'est pas ça la Torah. Parce que même ça, il pourra pas le faire longtemps, il va tomber malade. Donc la Emouna, c'est celle qui fait activer tout l'être dans son ensemble. Ha'achdut ha'kolelet. Achdut kolelet. Non pas achdut pratit, nekudatit, spécifit. Faites très attention de ne pas développer un élément dans votre vie en ayant oublié le reste. Toujours ayez une vision globale de la chose. N'oubliez jamais, même maintenant vous êtes en cours, n'oubliez jamais que vous êtes au Machon Ora, que vous êtes à Yerushalayim, que nous sommes en 5776, très proche de la Géoula, que nous sommes... Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Tout le temps, il faut voir le tout et le petit en même temps. Marabou ma'asecha Hashem kulam bechokhma asita. Akadosh Baruch Hu, il est dans les détails ou dans le tout? Dans les deux. Dans les deux. De la même manière que tu dis Akadosh Baruch Hu, magadlu ma'asecha, combien sont grandes tes actions, Akadosh Baruch Hu, tu peux lui dire Makatnu Maasecha, combien sont petites tes actions, parce que tu es dans l'infiniment grand et aussi dans l'infiniment petit. C'est énorme. Donc maintenant, on va commencer à définir la Emouna. Ha Emouna, hi ha me'amenet. Ah, je vais le traduire avec des mots modernes. La Emouna, c'est notre coach. Eh oui? Ça s'appelle Mehamenet, même dans un langage moderne. Parce que tu as une fille qui est ton coach, tu dis Mehamenet Sheli. Donc la Emouna, quel est son rôle?
De nous entraîner.
Ou Mehasheret. Tiens, il y a le mot Mehasher, le Hasher, Ishur. Non? Certifié. Et donc, elle va être me'asheret. Quel est le mot central qui se cache dans tout ça? Osher. Le bonheur. Magnifique. Ça veut dire que si je certifie la vie, donc à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce que je deviens aussi? Heureux. C'est-à-dire le bonheur qui passe par moi me rend moi-même un élément, un porteur de bonheur. Donc je véhicule du bonheur aux autres. Donc à partir du moment où je suis un véhicule de bonheur, les gens quand ils vont me voir, même sans leur parler, le fait de leur dire Boker Tov, Shalom, qu'est-ce que ça leur fait? Un bonheur. Ils vont rencontrer le bonheur. Il y a des gens qui vous font cet effet. À chaque fois que vous les voyez, vous êtes en forme. Baruch HaShem. Ce sont des gens qui portent en eux quelque chose de fort. Ou me'asheret la adam et trouchat heyoto chai. Regardez, pour l'instant, le Rav n'a même pas parlé de religion, de quoi que ce soit. Il est en train de parler de vie. Il faut d'abord être vivant, parce que quand tu es vivant, tu es en train de faire traverser la vie à travers toi. Donc, me'asheret la adam, ça certifie à l'homme, et trouchat heyoto chai. Son ressenti, son sentiment d'être vivant. C'est tout. Est-ce qu'il faut vous prouver que vous vivez? dis oui.
Si on fait des choses.
Je dois te prouver maintenant. Est-ce que je dois te prouver que tu es vivante?
Non, je le sais.
Tu le sais pas. Tu vis, c'est tout. C'est pas au niveau du savoir. C'est-à-dire, si je dois t'expliquer que tu vis, tu es très malade. Il faut vite t'enfermer. Tu vis, c'est tout.
On ne sait pas si on vit, si on vit comme des rachats au final. Comment c'est des rachats aussi, parce que
non, encore une fois.
Sûr que tu vis comme un
rachat, ça, c'est un autre inyan maintenant. Est-ce que ton sentiment d'être est là, j'ai besoin de te le prouver. C'est
les...
tout. C'est tout. D'ailleurs, quand je fais comme ça, regarde, tu as fermé les yeux. Pourquoi? Parce que t'as peur, tu te défends. Tu te dis, je veux pas qu'on m'enlève ce sentiment de vie. Donc dès que je m'approche, que tu sens un danger, tu fermes les yeux, tu vas faire un mouvement de hagana, de protection. Ça veut dire que c'est saine. Quelqu'un qu'on vient attaquer et qui ne fait rien, c'est un mort. C'est-à-dire, on te frappe à la joue droite, qu'est-ce que tu dois faire? Tu t'enlotes. C'est la mort, ça. Chas v'shalom, c'est pas la vie. Quand tu rentres dans un Beta Knesset, tout est allumé. Quand tu rentres Chas v'shalom de l'autre côté, là-bas, là, il sent, on dirait que tu rentres dans un cercueil. Tout est noir. Il y a une bougie. Tu entends une voix qui sort des ténèbres. Chas v'shalom. C'est là, il sent. Ne'emar l'eshem birur. Alors, on va dire maintenant, pour bien confiner tout ce qu'on vient de dire. Chez Adam, chez Tersar, lo hasaga pshuta, v'bsisit, zot, quelqu'un à qui il manque ce sentiment naturel, simple et basique, primitif, j'allais dire, de ce qu'on vient de dire, et ino metsuga le tafket klal, ne peut plus, même pas agir, il peut plus agir du tout. Chassar bitachon, c'est un homme ou une femme qui va être sans aucun bitachon, aucune confiance en soi. Netul rason, aucune volonté, il voudra rien. Ça, c'est les gens qui veulent rien. Vous connaissez des gens qui veulent rien? Terrible, c'est terrible. Et pire encore, netul rason liyot, il veut pas quoi?
Vous avez dit la volonté, quoi?
Quoi?
Il y a ceux qui veulent rien. Et...
qui veulent pas. Surtout quoi, ils veulent pas? Quoi?
Vous avez dit le ratson.
Ah, mais quel ratson? Mais tout le ratson? L'ihiot d'être, il veut plus être. Il veut plus être. Chas v'shalom, si vous connaissez quelqu'un qui ne veut plus être, il faut vite le soigner. Vite dire à des gens. C'est très dangereux. Zot ve'od. Tout ceci est juste le début, hein. On est dans le chapitre qui commence. C'est un livre qui fait peur, tellement il est fort. Parce que c'est la base de notre vie. Sans ça, vous ne pouvez même pas rentrer après dans une étude. Okay? Ha'emuna mityacheset la karat uvdat akiyum. Donc maintenant, comment est-ce qu'on va définir la emuna? Qui peut me traduire ça? Ha'emuna mityachese, donc la emuna, à quoi elle s'adresse? Le hakarat, à la connaissance, uvdat hakiyum, de la réalité de l'existence. Donc quand je dis anima amin, c'est parce que j'ai conscience de l'existence. D'accord? La chen. Quoi? Retraduire. La emuna, en fait, ne s'adresse qu'à la connaissance de la preuve de l'existence. La chen, c'est pourquoi. Hinetuna la adam be'etsem hivatsuto. Quand est-ce que l'homme a reçu, en fait, la emuna? D'après tout ce qu'on vient de dire. Exactement, au moment de sa naissance, au moment de sa fécondation. Donc vous comprenez que c'est loin de ce que vous imaginiez de la emuna. C'est-à-dire, la emuna, c'est la chose la plus primitive qui soit. C'est avoir la foi en soi. Est-ce que j'ai emuna en moi? Ben oui, je suis vivant. Donc, en qui c'est dur d'être ma'amin? Non. En soi-même, c'est la chose la plus évidente. Je vis. En qui c'est dur d'être ma'amin? En Hachem. Parce que pour être ma'amine dans Hachem, c'est qu'il faut que je vive son être. Parce que j'ai dit que je dois le vivre. Donc, vivre ce que je suis moi, c'est facile, parce que je suis le plus proche de moi-même, j'ai pas besoin qu'on me prouve que je suis vivant. Mais vivre Hachem, ça c'est un travail. Bien fait. C'est ça le travail, c'est de prendre cette conscience, c'est d'étudier, c'est de comprendre. Mais c'est ça l'étude de la Emouna. Comment j'étudie que Dieu est en moi, que je vis de son être? Ça, c'est l'étude de Emouna. Les gens qui ne comprennent pas cette étude, qu'est-ce qu'ils se disent? Non, commence, ouvre déjà une Gemara, ouvre déjà une Mishnah. Mais t'es même pas dans la base de la chose. Donc, il y a des cours de Emouna au Machon Meir, il y a une kita qui s'appelle Kitat Emouna. Vous aussi, vous avez ici une Kita Temuna? Ça veut dire que c'est très important. C'est une Kita où on vous apprend à certifier la vie. C'est comme si on vous branchait toutes. Imaginez-vous que vous avez toutes des portables à la main. Et c'est vous le portable. Et vous avez un fil qui sort de l'oreille. Et on vous branche à une prise. Pendant une heure. Et vous sortez de là. 100% rechargé. C'est ça. C'est ça cette étude. Donc c'est en réalité le sentiment de quoi? De mon moi, de mon être, ani. Agoremet le koichai le agen al chayav, qui fait en sorte que chaque vivant, chaque être vivant, peu importe ce soit un chat ou une souris ou un oiseau, à se défendre, à défendre sa vie. Le kol baal chay. Donc en réalité, Todarabba. Ça représente tous les Baal Chaim, donc tous les porteurs de vie. Comment, qu'est-ce que ça veut dire Baal Chaim? Maze Baal Chaim, vous avez entendu cette... Baal Chaim, maze Baal Chaim. Les animaux. Mais c'est pas ce que je suis en train de dire. Baal Chaim. Ah, il y a fameux. Les propriétaires de leur vie. C'est énorme. Ça veut dire qu'il faut que tu sois, que tu deviennes propriétaire de ta vie. Liot nachon le milchemet akiyum. Donc, si tu es propriétaire de ta vie, tu te défends à chaque fois qu'on vient t'attaquer. Et c'est normal. Le ma'avak al emunat kiyumo. Parce que tu défends quoi? La emuna de ton être, de ta vie, de ton existence. Si je ne suis pas prêt à me battre, en fait, pour cette existence, j'ai une maladie d'être très grave. C'est un mal-être. C'est la chose la plus grave qui soit, c'est la plus grave des maladies, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la dépression. Et qu'est-ce que c'est une dépression? C'est quand il n'y a plus de neshama qui est dedans. Il n'y a plus de pression. Donc tu n'as plus envie de te lever, il n'y a rien qui te pousse. Donc tu as envie d'arrêter tout, de tout lâcher. C'est très grave ça. Je résume. La Emouna, c'est la vie. Et cette vie, elle anime en nous plein de degrés. Notamment, d'une manière générale et collective, l'intellect, le ressenti et le dignum. Sans la Emouna, sans la prise de conscience de mon être vivant que je ne suis pas. Et donc, ne perdez jamais, quand vous êtes dans l'un de ces détails, c'est-à-dire, vous êtes en train de vous occuper d'une manière intellectuelle d'un sujet, ou d'une manière ressentie d'un autre sujet, ou d'une manière imaginaire d'un autre sujet, n'oubliez pas votre être. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Votre être, c'est lui qui génère tout ça. Donc ne sortez pas de lui, ne le perdez pas, ne soyez pas dans la notion du rachat. Soyez dans la notion du tzaddik, celui qui fait le lien entre tous ces degrés. Toda Rabah.